Salut à toutes et à tous, bienvenue dans le nouveau podcast de la rédaction de Gameblog, le podcast 553, un podcast qui va encore une fois être bien rempli en termes d'actualité. Avec moi, nous avons Johnny One.
Bonjour.
Voilà, qui fait coucou, comme quand il dit bonjour aux petits-enfants. Voilà, si vous avez la vidéo, c'est mignon, c'est Johnny One qui fait coucou, comme ça. Voilà, donc
c'est la seule fois où on peut associer Johnny One et mignon.
Et ça fait un peu flipper aussi au passage. D'ailleurs, il faut regarder ça pour la photo du podcast. Poufy, c'est la meilleure photo qu'on puisse avoir. Avec nous, nous avons aussi Thomas.
Salut mon petit.
De la rédaction.
Tu veux un ballon ?
Non, merci.
Prends, il est à toi.
Si tu as une glace, je prends.
C'est vrai.
Et Romain, avec le fameux running gag du « Il est toujours au Japon », évidemment.
Vous on ne s'en lasse pas.
Si vous avez la vidéo, voilà, on s'en lasse
pas. Il est confiné, le pauvre.
Ça ne vieillira pas comme blague, c'est toujours bon. Alors, cette semaine, nous allons vous parler de Mass Effect. Et oui, ça y est, Johnny One a vu Mass Effect Legendary Edition. Johnny One, pour qui Mass Effect, c'est la vie, même si des fois, il oublie des événements liés à Mass Effect, ça peut lui arriver. Il va pouvoir quand même nous en parler de ce remaster, ou peut-être plus qu'un remaster, qu'il a eu l'occasion de voir. On va parler, évidemment, du fiasco de la semaine, de l'annonce qui fait beaucoup sourire, encore une fois, au sein de la rédaction. C'est Google Stadia, dont Phil Harrison, son general manager, a annoncé la fermeture des studios internes. Une sacrée nouvelle, vraiment très, très étonnante.
De là à dire qu'on l'avait vu venir, hein.
On verra tout à l'heure. Tu sortiras ta boule de cristal tout à l'heure, Thomas. Et on finira avec The Medium. Avec ou sans Johnny One, ça dépendra, parce que nous avons tous des obligations, évidemment. Mais en tout cas, nous vous en parlerons de ce titre exclusif à la Xbox Series XS sur console, en tout cas, signé Bloober Team, que nous avons eu l'occasion de jouer et qui, d'ailleurs, on l'a appris il y a très peu de temps, eh bien, a réussi à être rentable dès le lendemain de sa commercialisation, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour Bloober Team. Mais avant ça, on va rester dans les bonnes nouvelles, mais aussi les mauvaises, avec le win et le fail. Et la bonne nouvelle de la semaine, Thomas, c'est un constructeur qu'on croyait mort il y a encore quelques années, hein, qu'on voyait partir... racheté par on ne sait quelle société américaine, et pourtant ça se passe bien pour Nintendo.
Alors ça se passe bien, ça se passe même très bien. C'est peut-être un des autres running gags d'ailleurs de notre podcast, c'est que Nintendo va super bien sur tous les plans, et là particulièrement sur le plan financier, puisque le constructeur a dévoilé les résultats du troisième trimestre de l'année fiscale en cours il y a seulement quelques jours, et c'est toujours un carton plein. Alors vous allez commencer à le savoir, parce que c'est pas la première fois qu'on vous parle du succès phénoménal notamment d'Animal Crossing New Horizons, qui continue évidemment de se vendre. Mais là, en termes de chiffres, on a quand même des sous-totaux, on va dire, assez intéressants. C'est toi qui nous en parlais, mon cher Plumeau. Donc là, on parle de la période qui s'étend du 1er octobre au 31 décembre 2020, et ce sont 11,5 millions de Switch qui ont été écoulés dans le monde, dont 3,1 millions de Switch Lite, sachant que désormais la Switch Lite, sur la totalité de sa commercialisation, est à un poil de fesse de dépasser la Wii U, ce qui est un petit exploit en soi.
On peut revenir sur le chiffre de 11 millions et quelques en un seul trimestre. C'est quasiment... On est à 2 millions de la Wii U sur sa vie complète.
C'est d'ailleurs leur meilleur trimestre depuis la commercialisation de la Switch. C'est quand même assez fou. Ça les a même amenés à réviser pour la seconde fois les bénéfices qu'ils allaient pouvoir dégager sur cette année fiscale. Ça rappelle finalement l'année 2017, quand la console venait de sortir et que justement Nintendo était obligé, ayant peu de visibilité à l'époque sur les ventes de la console, ils avaient révisé déjà par deux fois justement leurs perspectives de croissance et les bénéfices qui allaient pouvoir être enregistrés. Là, c'est une nouvelle fois le cas. Et il reste encore quand même un trimestre entier pour tirer le bilan de cette année fiscale, avec quand même quelques grosses sorties d'ici là.
C'est ce que j'allais dire, c'est un trimestre avec Mario 3D World plus Bowser Fury, et surtout Monster Hunter Rise.
Tout à fait.
L'année, elle va être l'année fiscale, ils vont sortir le champagne.
On sait à quel point la licence de Capcom défonce absolument tout sur son passage. On vous en a parlé sur Gameblog ces derniers jours. Les chiffres de vente sont aussi assez astronomique pour le dernier épisode en date et son DLC. Et bah, du coup, les jeux continuent de se vendre. Hein, plus 4,4 millions de Mario Kart 8 Deluxe, un jeu qui est sorti quand même, on le rappelle, en 2014 à la base dans ses versions initiales. Plus 5 millions d'Animal Crossing sur le dernier trimestre. Bref, c'est un carton plein. Et l'un des derniers points qui est quand même assez intéressant et qui valide une certaine stratégie de recyclage du côté de chez Nintendo, c'est que Pikmin 3 Deluxe tutoie les 2 millions d'exemplaires écoulés. On est à 1,94 millions, ce qui en fait eh bien, l'épisode le plus vendu de la série. Il dépasse les ventes de Pikmin, Pikmin 2 et de la version originale de Pikmin 3. Du coup, peut-être qu'on peut s'attendre cette fois-ci à un quatrième épisode en bonne et due forme, comme Miyamoto nous l'avait promis. En tout cas, une fois de plus, tout va bien pour Nintendo qui doit évidemment se frotter les mains. Et bah, ça nous permet de prendre un petit peu de recul sur une éventuelle annonce concernant bah, un nouveau modèle de Switch, puisque, a priori, dans les faits, pour l'instant, il s'en passe allègrement.
Alors, moi, j'ai juste deux petites remarques à faire. La première, c'est que j'ai pas pensé à ça avant, mais je serais curieux de voir ce que donnaient les chiffres au moment de l'apogée de la période Wii DS. Parce que là, maintenant, il faut garder à l'esprit que la Switch, en fait, elle remplit à elle seule le rôle de deux consoles auparavant. Donc, si on accumule Wii et DS au moment où ça se passait très bien pour ces deux machines-là, est-ce que la Wii fait aussi, la Switch fait aussi bien, ou est-ce qu'elle est malgré tout en dessous
Si tu cumules les deux, le Wii plus DS, on est quand même au-dessus en termes de courbe de vente que la Switch prise toute seule. C'était deux cartons pris séparément, donc forcément, c'est pas très étonnant.
Ma seconde remarque, en fait, concerne les déclarations, enfin les démentis concernant la Switch Pro, où Nintendo dit encore oui, non, il n'y a rien de prévu, etc. Juste pour rappeler, quand la 3DS XL a été annoncée, deux semaines avant, Miyamoto déclarait à IGN, non, il n'y aura pas de révision hardware de la 3DS. Non, il n'y en aura pas.
Ah, mais là, il est plus urgent que jamais de rappeler que justement, il n'y en a rien dans les cartons, puisque la console se vend incroyablement bien.
Oui.
Donc, il est important de rappeler qu'officiellement, rien n'est prévu pour la suite.
Voilà, mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que officiellement ne veut pas dire vérité. C'est entre ce qui est dit publiquement et ce qui se prépare vraiment, parfois ça peut changer en 24 heures. Tu vois.
Après, il n'est pas impossible qu'il décale un éventuel planning au vu de la très bonne santé de la Switch et de la Switch Lite. Peut-être qu'une annonce pourrait être reportée de plusieurs mois.
Ah oui, c'est possible.
Pour profiter justement de ce momentum.
C'est possible, mais comme on disait dans un précédent podcast, il ne faut pas rater le coche non plus, tu vois. Il ne faut pas attendre trop longtemps. Sortir le nouveau modèle ou l'annoncer quand l'autre se porte très très bien, ça peut aussi être un calcul qui se justifie. Mais là en fait, voilà, c'est un problème de riche qu'a Nintendo, en fait. C'est savoir, ils ont le confort et le luxe de pouvoir prendre un peu leur temps et essayer de vraiment calculer leur courbe. Ils n'ont pas le couteau sous la gorge pour l'annonce d'une nouvelle console.
Non, et puis leur console reste disponible en rayon, ce qui n'est pas forcément le cas de la concurrence. Oui, c'est un plus non négligeable.
Johnny, on t'a pas entendu sur cette histoire. Toi, tu vas t'en acheter une en fin de Switch ou tu vas garder celle de la Redac?
Pour l'instant, je garde celle de la Redac.
D'accord, ok.
Bah, il faut dire qu'elle est tout le temps chez lui, donc forcément.
C'est vrai. C'est un peu sa deuxième maison à la console.
Tout à fait. Non, franchement, la Monster Hunter qui sort, là, elle est magnifique. Sortir pour Rise avec.
Ah, c'est vrai.
Avec les décors. En plus, elle irait très bien à côté de ma PS4 Monster Hunter. Enfin, bon, bref, on verra.
Tu sais que dans la news d'annonce de la Switch spéciale Monster Hunter, je t'ai fait une dédicace.
Une dédicace, probablement. Je l'ai commenté, cette news, donc.
J'étais certain qu'elle te ferait de l'œil. Mais oh, après, acheter une Switch maintenant,
non, ça va
pas. Je sais pas si c'est le meilleur calcul.
Non, surtout la payer 400 euros,
ouais.
C'est pas le meilleur calcul.
Ouais. Bon, on va continuer dans les calculs, tiens, avec le fail. Romain.
Oui.
On va parler de Konami, une fois n'est pas coutume. On peut parler de ta cave aussi, hein. Moi, je ne sais pas ce qui s'y passe. Mais...
Excuse-moi, Plumeau, qu'est-ce que tu as dit?
Je disais qu'on allait parler de Konami.
Ah oui.
Une fois n'est pas coutume.
Bah là, pour le coup, c'est un peu un fail involontaire, en fait. C'est un fail indirect, parce que comme beaucoup de sociétés, japonaises surtout, en plus des annonces des résultats financiers, ils profitent toujours de cette fin d'année fiscale pour parler des changements d'organisation, des restructurations, etc., qui prendront effet en tout début d'année fiscale suivante.
Comme on a pu le voir avec Sega, d'ailleurs.
Comme Sega l'a fait.
Et ton ami Nagoshi.
Exactement. Et donc, Konami a fait des annonces de changement de poste de certains de ses pontes, de promotion, etc. Et dans le lot de ces annonces, il y avait la dissolution. Alors, c'est vrai que présenté avec ce mot-là, ça peut faire peur. La dissolution de ces production divisions, en gros, ces studios de développement internes, à partir du 1er avril prochain.
Mais c'était écrit comme ça en japonais, c'était écrit dissolution.
Non, en fait, le communiqué est en anglais. Le communiqué
était
en anglais, donc c'était dissolve.
Mais ils imitaient Jacques Chirac au moment où ils le balançaient, donc ça prêtait à confusion, forcément.
Okay. You want me to go back to my...
Tu fais super bien Chirac.
Et donc oui, ils ont parlé de dissolution, et comme c'était genre une phrase, les gens se sont dit « bon bah voilà, c'est fini pour les studios de développement de Konami ». Alors qu'en fait non, c'est pas ça, c'est juste que plutôt que d'avoir trois structures... Eh ben, il les regroupe en une seule et même structure, et ils ont été obligés de faire un communiqué pour dire « L'annonce effectuée fait référence à une restructuration interne qui correspond à la consolidation des production divisions. Nous n'avons pas « fermé » entre guillemets notre branche jeux vidéo. » Alors, ce qui est marrant, c'est que Konami, les gens leur cassent du sucre sur le dos depuis des années maintenant, souvent à juste titre.
Merci.
Dès qu'il y a un bruit qui peut faire penser à la fin du jeu vidéo chez Konami, là, tout de suite, les gens se soulèvent et sont dégoûtés et ont peur. Donc, en fait, malgré tout, il reste un certain attachement à Konami et plus particulièrement à certaines de ses licences.
C'est normal, ils ont un catalogue de licences, même si elles sont plus exploitées, qui est quand même incroyable et qui fait frémir d'envie ceux qui ont connu justement les grandes heures de Konami à l'époque 16 et 32 bits. Quoi.
Alors après, je peux pas vous dire exactement ce à quoi ça correspond, mais de ce que je sais, moi ça bosse chez Konami en ce moment. Et ça bosse sur des grosses licences. Alors après, de ce que j'ai entendu, les annonces, elles ne sont pas imminentes. Tu vois, c'est pour ça que à chaque nouvel événement, genre PlayStation Showcase ou machin comme ça, les gens sont là, oh, remake de Silent Hill. Moi, ça me fait rire parce que de ce que je sais, c'est pas prévu. Et à chaque fois, je relance quand même au cas où pour savoir, alors, toujours pas, non, toujours pas de Silent Hill. Mais en tout cas, il y a des trucs qui se préparent chez Konami. C'est juste que ça ne va pas être annoncé tout de suite. Parce que l'idée c'était, après l'affaire Kojima, c'était de revenir un peu dans les bonnes grâces des joueurs. Mais ils ont préféré attendre, c'est comme ça qu'on m'a présenté les choses, attendre parce que faire ça trop vite après Kojima, ça ne passerait pas de toute façon. Et après... Alors je dis oui, mais qu'est-ce que vous avez fait avec contrat, quoi, c'est pour revenir dans les bonnes grâces, il n'y a pas trop le meilleur moyen de s'y prendre. Mais bon, c'est vrai que...
On a vu ce qu'ils ont fait, hein. N'importe quoi. Absolument n'importe quoi. Alors, en attendant, à côté, ils continuent à développer beaucoup de jeux mobiles qui marchent plutôt bien au Japon. Évidemment, ça ne nous parle pas, mais en tant que développeur, ils continuent d'alimenter un petit peu le marché et de décliner leurs licences, principalement des licences de baseball. Alors oui, c'est pas ce qui nous fait bondir d'envie, etc. Mais il faut pas croire que Konami ne fait plus de jeux parce qu'ils ne sortent plus de jeux sur console.
Johnny,
ils font toujours des Pachinko, Silent Hill et Metal Gear Solid.
Probablement. Ils sont toujours là-dedans, mais il y a aussi Yu-Gi-Oh, il y a PES. Enfin, ils sont pas à la rue, hein, Konami.
Ouais. Konami au Japon, ils ont des salles de sport, ils ont plein de. Enfin, après, il faut voir aussi que, et ça, les chiffres de Sega l'ont montré. Je pense que c'est un peu pareil chez Konami, même si j'ai pas trop regardé les chiffres ces derniers temps. Le pachinko, c'est plus que c'était au Japon. Hein. C'est le.
Surtout c'est plus un
moteur. C'est plus un moteur forcément comme ça a pu l'être à une époque. D'ailleurs, si vous regardez les restructurations annoncées là, ces derniers temps par les boîtes japonaises, Sega a décidé de séparer sa division jeux vidéo de sa division pachinko. Ça va devenir deux boîtes. Il y aura Sega Sammy Corporation qui englobe tout, mais à l'intérieur de ça, tu auras Sega et Sammy qui sont deux boîtes séparées. Sachant que les pachinko, ça ne marche pas forcément très bien, sur les résultats, ça fait un peu tâche. Tu vois, et si tu peux mieux séparer les deux, ça rend mieux. Quoi.
Pas bête.
Très bien. Bon, en tout cas, c'était un sacré quiproquo concernant Konami. Et on espère qu'un de ces quatre, on verra du nouveau quand même du côté de la petite vague. On va passer au thème numéro 1 de la semaine. Et le thème numéro 1 de la semaine, eh bien, on réserve une place de choix à une trilogie de choix, à savoir Mass Effect, qui va donc revenir d'ici quelques semaines, quelques mois, dans une Legendary Edition, une compilation de la trilogie originale, donc pas de Mass Effect Andromeda dans le tas, juste Mass Effect 1, Mass Effect 2, Mass Effect 3. Johnny, tu as eu l'occasion de voir ça de tes propres yeux, à défaut d'y jouer, et tu vas pouvoir nous dire un petit peu eh bien, comment ça se présente, à quoi il faut s'attendre.
Exactement. Donc, on a eu droit à une petite conférence cette semaine, alors que j'ai raté. C'est pour ça qu'il y a un peu de moi tout à l'heure, je l'ai raté.
Tu t'étais pas réveillé, je suis sûr.
Ouais, ouais, bon, bref, la vie est compliquée. Mais heureusement, les RP nous avaient mis de côté cette petite conférence. Donc, du coup, on a quand même pu y assister. Et donc, on a pu avoir de premières grosses informations sur cette Legendary Edition de Mass Effect. Donc, déjà, on avait trois devs en présence. Donc, il y avait le producteur, la productrice, le directeur et le chef des équipes artistiques. Voilà, donc, les trois plus gros pontes sur le projet, en fait.
Donc, un directeur, c'est le réalisateur. Faut que
voilà, le réal.
Il faut
qu'on mette quelque chose un équivalent cinéma, voilà.
D'ailleurs, et si je revois directeur dans un article, normalement, je tue la personne qui a écrit ça.
Voilà, moi, je suis content. Je suis content que tu t'enflammes là-dessus parce que j'étais en train de me mordre la langue. J'en peux plus de ce faux ami du directeur.
Voilà. Mais, ouais. Mais créatif,
il y a des directeurs de studio. Il y a des directeurs de studio, mais le director, c'est le réalisateur. Ouais, c'est juste qu'ils ont tellement d'appellations un peu chiantes les anglophones dans leur truc.
Enfin, bref, on sait qu'avoir interrompu sur ça.
Pas grave. Donc, on avait le réal, le prod et le chef des équipes artistiques, pas techniques, pardon, excusez-moi. Donc, ils ont pu nous filer un petit peu quelques petites anecdotes de développement. C'était assez amusant. Mais surtout, on a pu en apprendre un peu plus sur le jeu. Bon, déjà, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Hein. Je vais vous dire un petit peu ce qu'on aura. Donc, on aura Mass Effect.
Tu dis le jeu, mais il y a les trois.
Ouais, il y en a trois. Alors, attendez, j'ai fermé la page. Oh là là, quel idiot. Donc, on a trois jeux. On a donc Mass Effect 1, Mass Effect 2 et Mass Effect 3. Et on va avoir en plus tous les DLC. Je crois que ça fait plus de 40 DLC. Et donc, même le flingue qu'il fallait récupérer en précommande chez Game, les magasins Game qui n'existent même plus, hein, d'accord ? Bah, on pourra avoir ce flingue-là. Oui, chez nous. Donc, on pourra avoir ce flingue-là. Donc, on va avoir vraiment tous les bonus de précommande qui seront inclus du jeu numéro 1, du jeu numéro 2, du jeu numéro 3 et tous les DLC. Donc, c'est-à-dire les extensions du premier, du deuxième, avec donc Kasumi, je ne sais plus c'était quoi les autres extensions du 2, et dans le 3, bah, la citadelle, ce genre de trucs. Voilà. Donc, on aura vraiment une aventure complète dans un bundle avec les trois jeux. Alors, il y a une question qui a été posée à un moment, c'est est-ce qu'on aura la chance de vivre, vous savez, une seule aventure du début à la fin qu'on aurait lissée ? Non, ce ne sera pas le cas. Il y aura un launcher de base, c'est-à-dire que quand on va installer l'application, ce sera une seule application. Mais par contre, dans cette application, vous aurez trois jeux différents à accéder. Donc, quand on passera du 1 au 2, il faudra quitter et relancer une nouvelle partie dans
Avec la sauvegarde, les sauvegardes
seront quand même compatibles. Mais donc, il n'y aura pas un espèce de lissage, il n'y aura pas de nouveauté sur la façon dont les trois jeux vont s'enchaîner. Les trois jeux, ils vont s'enchaîner comme avant. Tu récupères ta sauvegarde et c'est parti. Il y a eu quand même quelques petits lissages entre les trois épisodes.
On se rappelle que le premier est quand même super laborieux par rapport aux deux suivants. Surtout les balades en Mako...
Moi, j'avais aimé les balades en Mako. Moi, je fais partie de ceux qui ont le t-shirt, tu sais, avec le Mako comme ça, là. Voilà.
Ah oui, ok.
Ouais, non, mais c'était ma cam, le Mako. Et donc, on a quand même quelques trucs qui sont un peu lissés hein, sur les trois jeux, notamment l'éditeur de personnages. C'est-à-dire que, par exemple, Shepardette, elle n'était pas aussi bien traitée dans le premier jeu que le Shepard homme. Elle n'avait pas, notamment, de modèle iconique. Là, on va pouvoir trouver le modèle échimique de Shepardette dès le premier jeu.
Et la rouquine au carré, c'est ça ?
Voilà, la rouquine au carré. Donc, elle, on va pouvoir l'avoir dans le premier jeu. Et donc, il y a eu pas mal de lissages comme ça au niveau des éditeurs de perso, pour que le perso que tu t'es créé dans le premier, tu puisses le retrouver dans le 3, que tu ne sois pas obligé de le changer, ce qui était malheureusement un petit peu le cas avant. Moi, ma Shepardette du 1, elle avait changé dans le 2 et elle avait encore changé dans le 3. Là, on va pouvoir vraiment lisser la partie roleplay de la création du personnage, puisqu'on va pouvoir vraiment avoir le même dans les trois jeux. Donc ça, c'est pas mal. Mais, comme je vous le dis, l'expérience ne sera pas d'une seule traite, c'est vraiment trois jeux séparés encore. ils ont bénéficié de quelques petites retouches, ces jeux. C'est pas une bête compilation HD qu'on vous balance comme ça dans un menu dédié. Non, non, non. Il y a eu un vrai travail de fait. Alors, on n'est pas sur un remake à la Demon's Souls. Ou pour la version PS5 de Demon's Souls, par exemple, Bluepoint, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout refait. Hein. Ils ont gardé limite que le code du gameplay et ils ont reconstruit tout le reste autour. Animation, modèle 3D, décor, tout a été refait. Là, ce n'est pas le cas. Là, on garde le code du jeu d'origine, gameplay, machin et tout. On garde même le moteur graphique du jeu d'origine. Mais par contre, on va venir améliorer certaines choses. Alors, c'est assez amusant parce que donc, dans cette petite keynote à laquelle on a assisté, on a vraiment eu des anecdotes de développement qui nous font nous dire que, ouais, à des moments, ils ont vraiment dû faire des choix. Qu'est-ce qu'ils allaient améliorer et qu'est-ce qu'ils n'allaient pas toucher. Donc, au niveau graphique, déjà, il y a pas mal de filtres qui sont ajoutés, des filtres graphiques. Hein. Il y en a 6 ou 7. Il y a un moment, ils nous font la démo, ils enlèvent les 6, ils les rajoutent, les 6 petit à petit, pour qu'on se rende compte vraiment de ce qu'il va y avoir comme changement visuel sur leur travail. Il y a bien évidemment du support des dernières nouveautés visuelles, donc c'est-à-dire qu'on va avoir de la 4K, du HDR, du 60 FPS, qu'on soit sur PS4 ou PS5, Xbox One ou Xbox Series. Les joueurs PC auront un peu plus de chance puisqu'ils pourront monter jusqu'à 120 FPS. Alors ça, je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas le cas sur Series X et sur PS5, qui sont pourtant des machines capables de faire ça. J'espère que ça arrivera peut-être via mise à jour sur console, ce 120 FPS. Et les joueurs PC auront une option supplémentaire aussi, c'est qu'ils pourront afficher en 21:9. Voilà, leur jeu. Donc, au niveau visuel, ça devrait dépoter pas mal. Surtout qu'en plus, y a des choses qui ont été refaites, notamment les modèles 3D. Les modèles 3D d'origine, ils ont été retouchés, c'est-à-dire qu'un visage, il est plus fin, il y a plus de détails, il y a plus de polygones, on va dire.
Et t'as eu des exemples pour ça?
Ouais, j'ai eu droit à des comparatifs, avant, après.
De quel personnage en particulier?
Alors, on a eu droit au personnage humain. Mm-hmm. Les personnages humains, donc Shepardette, Kaidan, je crois, Ashley. Alors, je ne saurais pas te dire c'est le Kaidan et la Ashley de quel jeu qu'on a vu. Là, je crois que c'était ceux du premier. Hein, parce que Ashley, je me rappelle, elle avait son casque blanc et rose. Donc oui, ça devait être le premier sur Eden Prime.
Et pas Miranda?
Non, pas Miranda. Wow. On n'a pas vu Miranda.
Yvonne Stravowski, hein, au cas où vous demanderiez pourquoi je m'intéresse à Miranda.
Ça me parle beaucoup.
Il n'y avait pas Miranda dans la démo. Ouais. On a vu des extraterrestres, on a vu Garus. On a vu le... Alors, je ne me rappelle plus son nom, l'homme-poisson du 2.
Aquaman.
Le poisson?
Ouais, tu sais, ils ont des branchies, ils sont ouverts. Je ne me rappelle plus.
Ah, oui, l'espion.
Je me rappelle plus le nom du personnage. Voilà, c'est un espion, c'est un assassin.
J'ai oublié
c'est même pas dans le 2, c'est dans le 3, je crois.
C'est un Drell. Bah, non, parce qu'il y en a deux, en fait. Il y a lui et... Non, il est dans le 2 et dans le 3, je crois. C'est un Drell.
On a vu celui du 2 dans les démos. Donc là, pareil, les extraterrestres, les modèles 3D sont plus fins, ça se voit. Les textures sont mieux. Ah, j'en ai pas parlé, ça, des textures, je vais y venir. Et tout, avec tous les effets d'éclairage dont je ne vous ai pas encore parlé non plus, les personnages sont vraiment plus beaux. Comme je vous dis, vraiment, les modèles 3D sont refaits. J'ai parlé des textures, toutes les textures sont refaites. Enfin, pas toutes. Et ça, d'ailleurs, c'est une petite anecdote qui est amusante. Donc vraiment, quand on ajoute ces modèles 3D refaits, ces textures qui ont été améliorées et mises en haute définition, plus tout un tas d'éclairages qui ont été améliorés, des effets de lumière, du blur, ce genre de trucs. Enfin bon, bref, il y a vraiment tout un tas de filtres sur l'image. Bah, quand on ajoute tout ça et qu'on voit le comparatif avant, après, c'est plus le même jeu. Ce n'est plus le même jeu. Non, on n'est pas sur du visuel à la Demon's Souls que je citais tout à l'heure, mais franchement, on est sur quelque chose qui va être vraiment très 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 bon, beaucoup plus que le matériel d'origine, et quelque chose qui en 2021 pourra tourner sur une machine sans choquer, clairement.
Vraiment. Et plus beau qu'Andromeda ou pas?
Non, on sera un peu moins bien, je pense. Un peu moins bien parce qu'on reste sur le vieux moteur graphique, mais oui, avec forcément des modèles 3D. Mais regarde, avec la puissance des nouvelles machines, ce qui s'explique à un moment dans la keynote, c'est qu'ils arrivent, vu qu'ils sont sur le vieux moteur graphique, à afficher deux fois le jeu. Donc s'ils ont besoin de faire un reflet dans une flaque d'eau, un truc comme ça, bah, c'est le moteur et calculer une deuxième fois. Voilà. Donc non, le jeu va vraiment être très, 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 très beau. Je vous le dis, les lumières sont mieux gérées avec tous les filtres, les modèles 3D et les textures. Ça va dépoter. On n'est plus sur tout à fait le même jeu. Oui.
Il y a un point dont tu n'as pas parlé, c'est la musique. Bon. Est-ce qu'ils ont retravaillé, réorchestré? Non, pas du tout.
Toute la partie sonore, alors c'est marrant, c'est une question qui a été posée. Hein. Est-ce que vous avez retravaillé les sons? Non, on n'a pas eu le temps. Voilà. Alors, c'est, On n'a pas eu le temps, c'était pas leur réponse exacte, mais c'est clairement, il y a eu des choix qui ont été faits dans le développement.
Ils ont dû arbitrer à un moment donné.
Ouais, ouais, il y a pas que celui-là qui a arbitré de choix. Donc tout ce qui est piste sonore, c'est pas retouché. Tiens, je continue dans le visuel un tout petit peu, je fais un aparté. Les animations, par exemple, les animations ne sont pas retouchées. Ce sont les animations d'époque. Alors, bien évidemment, tous les bugs qu'il y avait dans les cinématiques, les persos qui se téléportaient, ce genre de trucs, qui faisaient des grimaces, qui se retrouvaient avec un visage comme ça, tout ça, c'est corrigé, d'accord ? Mais les animations en elles-mêmes, c'est les mêmes. On a juste lissé un petit peu les transitions. Vous voyez ? Donc, les animations n'ont pas été refaites. Ça reste le code d'origine tel quel. Et ça aussi, pareil, encore une fois, c'est un choix qui a été fait à un moment. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on retouche les animations ? Si on les retouche, le jeu, il sort en 2023. Donc, non, on ne va pas les retoucher. On va laisser tel quel. Tiens, sur la méthode, donc, leur méthode de travail a été assez originale. Ça, c'est le chef des équipes artistiques qui en parlait. Plutôt que de donner des listes d'assets à retoucher, toi, tu fais telle texture, toi, tu fais tel modèle 3D. Non, le travail ne s'est pas déroulé comme ça. Il n'y a pas eu une liste de trucs à refaire. C'est les artistes eux-mêmes qui ont joué au jeu, niveau par niveau, et qui ont noté eux-mêmes dans un calepin ce sur quoi ils allaient travailler. C'est-à-dire, ah, bah, tiens, on va refaire telle texture, tiens, on va refaire tel modèle 3D, on va refaire telle autre texture et tel autre modèle 3D. Du coup, c'est les artistes qui ont pu s'emparer un petit peu de leur travail. C'est eux qui ont choisi ce sur quoi ils allaient travailler. Et ils n'ont pas tout refait bête, d'une façon bête et méchante avec une liste de textures à refaire. Non, c'est j'ai refait la texture parce que c'est moi qui ai vu que cette texture-là était défaillante. Et voilà. Donc, les artistes ont pu avoir une espèce de méthode de travail un peu plus tranquille que du bête, qu'une bête liste de choses à effectuer, quoi, tout simplement. Voilà. Donc, bah, franchement, visuellement, ça se ressent. Voilà, le jeu est beaucoup plus beau. Il y a eu quelques petites modifications qui ont été faites, notamment, je prends l'exemple d'Eden Prime, la toute première planète du jeu, c'est la planète qui nous a été montrée. Quand vous y jouiez sur Xbox 360 à l'origine, ou sur PS3 un peu plus tard, le soleil était derrière vous, et éclairait la map de derrière. D'accord ? Donc là, on voit le travail qui a été fait sur cette map Eden Prime, par exemple. Donc le niveau, l'architecture, globalement, c'est la même. Mais tout ce qui va être rocher, herbe, texture, etc., ça a été amélioré. On nous a même mis des petits débris en plus, de la petite végétation en plus, tels que les modèles 3D, ils sont plus complexes, même dans les décors. Les textures sont plus belles et le fait d'avoir mis la lumière, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont déplacé la lumière de derrière vers l'avant. La lumière, on l'a en face. Tout le long du niveau, au lieu de l'avoir dans le dos. Et du coup, bah, ça permet de faire des jeux d'éclairage dans le niveau, de rendre ce dernier encore plus beau, en fait. Non, vraiment, je vous dis, les comparatifs droite-gauche, avant, après, si on regarde certains trucs, genre les extraterrestres, c'est pas flagrant, faut vraiment aller regarder dans le petit détail du modèle 3D pour voir la différence. Les humains, ça se voit vraiment. Et les décors, c'est là où ça change le plus. Voilà. Le jeu sera plus beau, clairement. Il y a un vrai travail graphique qui a été effectué. Voilà.
Okay.
Mais après, c'est peut-être le seul vrai travail qui a été vraiment effectué en termes d'amélioration du jeu. Parce qu'on vous a dit tout à l'heure qu'il y avait le 1, le 2, le 3 avec tous les DLC. Mais c'est tout, hein. Il n'y a rien de plus.
Ils avaient envie de. Par exemple.
Il n'y a pas le multi du 3, tiens, par exemple. Le multi du 3, ils ne l'ont pas ajouté. Moi, le multi du 3, j'ai passé des dizaines et des dizaines d'heures dessus. Hein. Les 3 premières maps, les 6 premières maps, je les ai fait des centaines de fois. Bah là, il n'y aura pas. Pas de multi. Parce que le multijoueur, bah, en fait, tout simplement, il doit. Non, tout le monde s'en fout pas en plus. Vous savez
qu'il y a
encore,
il y a encore des gens qui jouent.
Il y a encore des gens qui jouent. Moi, parmi mes amis et mes connaissances, j'ai même certaines personnes qui ont joué, mais au-delà du raisonnable. Hein. Ils y ont joué pendant 2-3 ans. Non, le multi du 3 a eu son petit succès d'estime, vraiment. Et je pense que ça va faire gueuler qu'il soit là.
C'est après, vrai, même si on regarde que le solo, c'est quand même une aventure assez dantesque. C'est des dizaines, pour ne pas dire des centaines d'heures qu'attendent ceux qui vont replonger dedans.
Ouais, exactement. Mais alors, oui, c'est comme ça qu'ils justifient d'ailleurs l'absence du multijoueur. C'est, ils disent, bon, bah, écoutez, les gars, on avait quand même 3 jeux à refaire en solo. Donc du coup, le multi du 3, bah, qu'est-ce qu'on en fait ? Bon, bah, on ne va pas le faire. Voilà. En gros, c'est ce qu'ils se sont dit.
En même temps, c'est des ressources, c'est des locations de serveurs. Ouais, exactement. Pas que ça va faire. Alors, non plus. Hein, pour un truc où tu n'es pas sûr que ça a marché.
Je vais analyser un petit peu les conditions de développement dans lesquelles peuvent être faits ce jeu. En fait, moi, je pense que c'est un petit jeu. Hein. Ce n'est pas une grosse équipe qui a été dessus. Hein. Je pense que ça a été une petite équipe. Et que du coup, bah, y a énormément de choix qui ont été faits. Comme je vous disais, les sons ne sont pas refaits, les animations ne sont pas refaites. Les modèles 3D, les textures, eux, le sont. Mais tout ce qui est jouabilité, RPG, armes, etc., tout ça, ça va être exactement pareil, hein, identique. Le défaut de Mass Effect 1, où on visitait sans cesse le même bunker sur toutes les planètes. Je pense qu'on visitera encore sans cesse le même bunker. Hein. Ça, ça ne va pas changer. Enfin, voilà. Donc, il y a vraiment des choix qui ont été faits à un moment, c'est-à-dire que le visuel est amélioré, mais le reste, bah non. Voilà. Et okay. C'est déjà pas mal que le visuel soit amélioré, parce qu'ils auraient pu se contenter de nous balancer trois fois la version 360 du jeu dans une vieille compile avec un vieux bundle. Et ça aurait fait l'affaire. Hein. Les gens, ils l'auraient acheté quand même. Là, non. On a un vrai travail de refonte graphique. Et franchement, ça a l'air vraiment pas mal. Et moi, j'ai hâte de passer... Attends.
Ta vie.
Ouais, voilà, ma vie.
Sur le premier, tu mettais une vingtaine d'heures. Le deuxième, tu devais mettre une trentaine, quarantaine d'heures. Et pareil pour le 3. Donc,
Alors, les trois pouvaient se rusher en 10 heures. Tu pouvais faire le 1, le 2 et le 3 en 10 heures. Maintenant, tu étais plus sur du 40-50 heures pour le faire à 100%.
Et on rappellera que Johnny est un chasseur de trophées vétéré.
J'ai bouclé Mass Effect 1 au moins une dizaine de fois, le 2 au moins une dizaine de fois, le 3 au moins une dizaine de fois. Voilà. Dans tous les sens, en large et en travers, en les faisant à 100%, en faisant pragmatique, conciliant, en faisant telle ou telle romance. Enfin, j'ai tout fait dans ces jeux. Tout. Johnny, et j'ai vraiment hâte de m'y replonger.
Johnny, c'est la seule personne que je connais qui est capable de jouer en même temps au même jeu sur deux consoles différentes pour débloquer les succès et les trophées en même temps.
Je l'ai fait sur Mass Effect à l'époque. Quand... D'ailleurs, ça a
déjà, tu le faisais déjà à l'époque.
Ouais, ça a fait un bug de sauvegarde d'ailleurs, parce que pour le multi de Mass Effect, il fallait te lier avec ton compte EA. Electronic Arts, et au début ils avaient des problèmes entre la gestion des comptes PlayStation et Xbox, et le crossplay marchait pas très bien, ma partie PlayStation s'est un peu mélangée avec ma partie Xbox, ça a failli tuer mes succès et mon platine.
Voilà. Ils ont juste pas pensé qu'il y aurait un type qui irait si loin dans
la jurisprudence. La jurisprudence de Johnny One, depuis, ils ont dû revoir tous les systèmes à cause de lui.
Vous savez, tiens, en temps d'exploit...
T'as bouché les boundaries, Johnny.
En termes de trucs assez rigolos, de limites de succès, tiens, j'ai joué à Destiny 2 l'an dernier. Destiny 2 qui est devenu crossplay. Donc moi, j'avais fait toute ma partie depuis des années sur PlayStation. Et là, avec le crossplay, j'ai testé le crossplay donc sur Xbox. Je télécharge Destiny 2 sur ma Xbox. Je lance ma partie. Je lance ma partie PS4, du coup, sur Xbox. Ça a déverrouillé tous les succès d'un coup. Voilà.
Ça, c'est que tu avais expliqué.
Donc, j'ai joué sur PlayStation et j'ai déverrouillé. Ça m'a permis de déverrouiller des succès sur Xbox. Voilà.
Alors, je ne veux pas t'entraîner dans ton propre vice, mais sache qu'avec Uplay et la connexion des différents comptes, ça te fait exactement la même chose sur d'autres plateformes. Voilà.
Ouais, mais Uplay, c'est des jeux Ubisoft. Je les boycotte.
Si tu ne veux pas des succès que je t'offre gratuitement, c'est ton problème, mon cher Johnny.
Merci, monsieur Pillon.
Johnny, c'est le seul mec qui bientôt va jouer en multi crossplay avec lui-même. Il aura une manette dans chaque main.
J'ai déjà fait, mec.
Cherche pas tous les challenges, il les a fait. Bon,
quand t'as personne sur multi d'un jeu de baston en ligne et que tu veux faire le trophée, par exemple, j'avais deux Play 3, bah, je lançais la version free-to-play sur ma première Play 3, la version payante sur la deuxième Play 3, et c'est les deux qui s'affrontaient pour faire les succès des jouer 1000 matchs en ligne, ce genre de truc. Bien débile en soi, nous en couvenons.
GTF1 dans l'oreillette, là, ils te veulent, Johnny, pour la prochaine saison de Crash 4.
Je crois la que là, prochaine saison de
candidates,
quoi
les candidates sont, font la
prochaine
queue.
Saison de quoi
de The Bachelor.
Ah, non, moi je peux pas.
Johnny le millionnaire, mais en trophée.
Je veux bien les millions, c'est tout. Voilà.
Juste pour finir, Johnny, sur Mass Effect Trilogy, enfin Legendary Edition, pardon. Ouais. Pas de date de sortie toujours pour l'instant. On reste sur le printemps.
Pas de date de sortie. Est-ce que j'ai d'autres petites infos que je vous aurais pas balancées là?
Bah, de toute façon, tu vas devoir aller bouffer, mon avis.
Ouais, c'est vrai. Alors attends. Ah oui. Oh mon Dieu, l'heure qu'il est. Oui, bon, juste deux, trois petits trucs vite fait. On pourra zapper les ascenseurs.
Ouais.
En effet, les commandes du Mako devraient être refaites dans le premier jeu. Moi, je sais pas si c'est une super bonne chose. Voilà, bon. Non, mais globalement, j'ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Voilà, visuellement, okay. Ça va tout déchirer et on a vraiment hâte de pouvoir en voir plus, hein, tout simplement. Voilà.
Ça sera bientôt, s'il sort au printemps, donc sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et Series S, évidemment, et pas sur Switch.
Non.
Ça, c'est
qui sait, un jour, pourquoi pas. Hein. Mais au vu de ce que j'ai vu tourner, je ne sais pas si ça pourrait tourner sur Switch.
Monsieur.
Sur la Switch Pro, alors, voilà.
Ouais, voilà.
Ou pas.
Voilà, voilà.
Bon, eh ben, écoute, merci Johnny. Je ne sais pas si ce n'est pas le moment où je te...
Ouais, ça va être le moment où je vais pouvoir m'éclipser. Je ne vous parlerai pas de The Medium, tant pis.
C'est plus t'inquiète pas, tu parleras à travers ma voix.
Vous êtes entre de bonnes mains.
Mais oui, je pense aussi. Bon, et ben bisous Johnny, bon courage.
Gros bisous, à très bientôt.
Ciao. Est-ce que cette fois tu vas y arriver du premier coup?
Attention.
Bisous. Tombe, en fait.
Ciao.
C'est bon, cette fois il y arrive du premier
c'est
coup.
C'est là qu'il faut attendre un peu pour dire enfin seul, voilà. Et enfin tranquille.
Voilà, c'est bon, là son image est figée, il n'est plus parmi nous. Ciao Johnny, salut mon pote. Bon, et bien maintenant que nous avons parlé de Mass Effect, on va pouvoir passer au thème numéro 2 de la semaine. Le thème numéro 2, c'est comme on vous le disait au début de l'émission, Google Stadia. Voilà, je crois que si c'était un tweet, ce serait Google Stadia. Voilà, c'est ça le tweet. Je pense qu'on pourrait s'arrêter là. Et on va être obligé de parler évidemment de cette nouvelle affaire, puisqu'on peut parler d'affaire à ce niveau-là, concernant Google Stadia. Donc on va résumer un petit peu ce qu'est Google Stadia. C'est un service de jeu en streaming qui appartient à Google sur la promesse du jeu n'importe où, sur votre tablette, sur votre téléphone, sur votre ordinateur, à n'importe quel moment. Vous pouvez, grâce à Stadia, lancer des jeux instantanément. C'était la promesse de départ. On sait que le service qui est arrivé donc en 2019 a eu un démarrage beaucoup plus compliqué que ce qui était imaginé. Il y en a beaucoup qui l'imaginaient comme le fossoyeur des consoles. Ça y est, Stadia arrive, les consoles de jeux vidéo, c'est fini. L'avenir, ça sera par Google Stadia ou autre. Ce n'est pas vraiment ce qui s'est passé. On rappelle aussi qu'il y a eu beaucoup d'investissements qui ont été faits de la part de Google, avec notamment deux studios qui ont été ouverts par Jade Raymond. Vous savez, Jade Raymond, ancienne d'Ubisoft, à qui on attribue un peu trop souvent Assassin's Creed, qui ensuite est partie chez Electronic Arts pour chapeauter le studio Motive, dont elle s'est barrée aussi, avec un jeu Star Wars annulé au passage. Donc elle a chapeauté deux studios, donc l'un à Los Angeles, l'autre à Montréal. Et la suite, c'est que Google Stadia peine peut-être un peu encore à trouver son public, malgré des offres qui peuvent être très sympathiques, des petites exclusivités qui peuvent faire plaisir, comme le Bomberman, par exemple, de Konami. On parlait de Konami tout à l'heure, le Bomberman R qui permet de jouer jusqu'à plusieurs dizaines de joueurs en même temps. Je crois que c'est une centaine. Ça fait partie des choses qui peuvent être intéressantes sur Google Stadia. Il y a eu Cyberpunk 2077 aussi, qui a bien bénéficié du fait qu'il n'était pas comme sur console. Donc, une version PC accessible avec un abonnement de 9,99€ par mois sans avoir besoin d'une grosse bécane de bourrin, c'était plutôt bienvenu à ce moment-là. D'ailleurs, ça avait limite fait planter les serveurs de Google, tellement l'offre était
allégée. Ils n'avaient pas l'habitude.
Ils n'avaient pas l'habitude, non.
Ils passaient de 25 mecs en train de jouer à plusieurs minutes en même temps.
C'est certain. Et donc, pour l'instant, on peut dire que Google Stadia, ce n'est pas exactement ce qui était promis en termes d'effervescence, en termes de plébiscite. Et hier, donc, pour nous, en tout cas, lundi 1er février, Phil Harrison a laissé un petit mot. Et un petit mot qui fait un grand bruit, donc, messieurs, puisque, eh bien, tout simplement, il annonce la fermeture des deux studios chapeautés par Jade Raymond. Jade Raymond qui elle-même s'en va, du coup. Bah oui, forcément, il n'y a plus rien à faire. Et il y a 150 développeurs donc, qui vont se retrouver tout simplement sur le carreau. Google dit qu'ils vont essayer de les recaser. Mais malheureusement, c'est pas aussi simple que ça, la vie, Romain.
Tu veux les recaser où, quoi ? Ils vont développer des fonctionnalités sur Gmail. Les mecs, ils sont venus chez Stadia, c'est pas spécialement pour la fin en soi de travailler pour Google, tu vois. Enfin, ils ont débauché beaucoup de talents, des gens réputés, des gens qui avaient un sacré pédigré, et en fait pour rien, quoi. Et d'ailleurs, quand on dit ils ferment les studios de Jade Raymond, ça va même plus loin que ça. En fait, c'est qu'ils arrêtent de développer en interne les jeux d'une manière générale. C'est pas juste ce qui était chapeauté par Jade Raymond, c'est leur leur structure interne de développement de jeux vidéo pour Stadia, sans que ces studios n'aient sorti quoi que ce soit. Apparemment, la désorganisation était la, la plus totale. Moi, cette histoire, ce qu'elle m'inspire, c'est une sensation de gâchis, en fait, parce que d'une part, quand Stadia a été annoncé pendant la conférence, on nous avait montré énormément de fonctionnalités qui n'ont jamais été intégrées à Stadia d'une manière générale. Par exemple, des fonctionnalités multijoueurs où tu pouvais entrer dans le jeu de quelqu'un d'autre instantanément, aussi de gestion des caméras. Enfin, il y avait énormément de choses qui étaient promises. Alors que finalement, la manière qu'a Stadia de gérer le jeu en via le cloud, c'est une manière très classique. Enfin, pour l'instant en tout cas, mais là, vu la situation des choses, je les imagine mal faire une poussée d'investissement d'un seul coup dans l'intégration de ces fonctionnalités.
Bah, c'est pourtant ce qu'ils disent. Ils disent qu'ils veulent se concentrer absolument sur le service en lui-même, sur la plateforme, et bosser avec les éditeurs tiers pour pouvoir avoir une expérience améliorée.
Voilà, et la plateforme pourrait justement servir, ils passeraient leur code au studio partenaire pour qu'ils puissent exploiter la plateforme Stadia. Mais malgré tout, je pense pas qu'ils iront aussi loin que ce qui était promis à la base. Et en plus, on sait qu'en termes de fonctionnement, Stadia, c'est pas forcément le service de jeu via le cloud qui fonctionne le mieux tout le temps. Donc ça c'est dommage. Et mon autre sensation de gâchis vient du fait que quand c'est une boîte de l'envergure de Google qui se met à faire du jeu vidéo, à avoir ses propres studios, etc., bah, tu t'attends à des jeux avec des ressources pharaoniques pour créer des expériences un peu sans précédent, alors qu'en fait, non, on n'aura tout simplement rien. C'est du gâchis. C'est du gâchis pour les personnes concernées, enfin les développeurs concernés, et c'est du gâchis pour les joueurs aussi. Et après, et là, c'est vraiment problématique, c'est pour les développeurs, c'est que non seulement ils se retrouvent au chômage, mais si une bonne partie d'entre eux va certainement réussir à retrouver du taf, bah, ça implique presque obligatoirement de déménager, etc. Enfin, c'est une situation compliquée.
Moi, j'avais une petite question par rapport à cette situation qui vient évidemment de me sortir de la tête au moment où je vous en parle. Donc là, ça devient problématique. Non, c'était par rapport au fait qu'on savait dès le départ qu'il n'y aurait pas de jeu interne développé au sein de Google avant un moment. Ouais. N'imaginez pas avant 2023, 2024. Et dans la tête des personnes qui gèrent ça, et j'imagine Phil Harrison, je veux dire, qu'est-ce qui se passe pour qu'on se dise finalement, vous voyez, les trucs sur lesquels vous bossiez maintenant depuis un an et demi, on n'en veut plus. Je veux dire, comment on peut se dire quand on est un patron ou un manager, nous, on voulait quelque chose d'immédiat, vous n'avez pas su nous le donner, alors qu'on sait très bien qu'un jeu vidéo aujourd'hui, quand on veut faire un modèle ne serait-ce que double A, et j'imagine que Google ne voulait pas faire des petits jeux indés développés dans un garage en une semaine, hein. Je pense qu'ils voulaient vraiment des trucs un peu lourds, histoire de donner, on va dire, une vitrine importante aussi à leur propre studio de développement. Comment on peut considérer quand on est manager, comment on peut se dire, finalement, on les a pas eu tout de suite, autant qu'on lâche tout et qu'on se mette sur les tiers, surtout quand on est Google, qui est quand même un géant, quoi.
Ils avaient les reins suffisamment solides pour tenir en attendant que la chose se démocratise. Et c'est là où c'est un peu paradoxal, parce que pour un service comme le jeu via le cloud, on est dans les balbutiements encore. Et c'était logique de la part des sociétés intéressées de se placer rapidement, quitte à perdre de l'argent, comme Microsoft le fait avec le Project X Cloud ou comme Sony peut le faire avec le PlayStation Now. On est dans une phase où il faut se lancer trop tôt pour pas arriver trop tard, en fait. C'était un peu ça. Et c'est vrai que là, la décision prise par les dirigeants de Google va totalement à l'opposé de ça, en fait, parce que c'est un manque de patience, de patience totale. Alors, Phil Harrison, qui est dans le milieu quand même depuis suffisamment de temps, je suis étonné que lui se lave les mains. Enfin, la décision vient certainement d'au-dessus de lui, mais c'est trop tôt pour se laver les mains de ça. Alors après, peut-être qu'ils ont fait des études de marché et les perspectives pour Stadia n'étaient pas aussi bonnes que ce qu'ils espéraient au départ. Mais un truc comme le jeu via le cloud, faut lui laisser le temps de s'imposer, de s'installer, etc., etc. C'est un peu bizarre. Alors après, c'est vrai qu'on sait très bien que dans les boîtes, et encore plus dans les grosses boîtes, des gens qui n'ont pas de patience, il y en a. Enfin, c'est un cas assez fréquent. Genre, si ça n'arrive pas tout de suite, ça n'arrivera jamais. Donc, on laisse tomber avant que ça nous coûte plus cher. Mais ouais, c'est un peu curieux.
Thomas. Je me demande à quel point, justement, ça n'a pas été une espèce de clairvoyance de leur part, en fait, de ne pas laisser sa chance au produit, mais de se rendre compte assez vite que, visiblement, ça ne marchait pas. En tout cas, le développement de jeux exclusifs ne fonctionnait sans doute pas comme ils l'auraient espéré. Et je me demande, pour rebondir sur ce que vous avez dit tous les deux avant, si un de leurs principaux problèmes, ce ne serait pas l'envergure des différents chantiers qui avaient été lancés justement dès le départ. On se souvient effectivement des promesses de Phil Harrison pendant la conférence dont tu parlais, Romain, où on nous parlait d'un futur des fois à 5-6 ans en termes de véritable exclusivité qui allait tuer un petit peu la tronche. Est-ce qu'ils n'ont pas voulu taper tout de suite trop grand, vouloir partir trop loin justement en se disant on est effectivement Google, une boîte qui a énormément de pognon, qui peut investir dans beaucoup, beaucoup de projets sans véritablement se mettre en péril et justement brûler en fait quelque part les étapes plutôt que de se faire la main, de développer des choses qui seraient à leur échelle et qui permettraient en plus d'alimenter un calendrier qui sera du coup un peu plus rempli parce que là, on t'annonce un nouveau service avec effectivement plein de fonctionnalités qui font éventuellement rêver, en tout cas qui mettent le paquet niveau technologique, en te disant derrière, oui, par contre, vous allez d'abord pouvoir profiter des jeux qui seront disponibles déjà partout ailleurs, et ensuite, dans un certain nombre d'années, pour ceux qui seront restés, là, vous profiterez d'exclusivité en tant que telle. Et moi, j'ai l'impression, alors c'est un ressenti personnel, mais vu que ça arrive très vite, cette décision justement de couper court au développement interne chez Stadia, moi, je pense que c'est quelque part une espèce de clairvoyance de leur part où ils se sont dit le modèle qu'on a mis en place ne fonctionne pas ou en tout cas ne fonctionne pas pour développer immédiatement des triple A et du coup plutôt que de chercher à rafistoler ou changer de direction ils ont préféré se dire voilà on n'a pas vraiment de visibilité sur la direction qu'on va prendre donc on arrête tout, on met malheureusement ces 150 employés non pas au chômage, mais enfin, on ne sait pas forcément ce qui va leur arriver, et on arrête et on se concentre sur de l'activité, l'activité purement tierce maintenant.
Après, c'est vrai aussi que c'est difficile de donner un jugement, sachant que nous, on n'a pas vu ce sur quoi travaillaient ces studios.
Ça se trouve, ça viendra.
Ça se trouve, les trucs étaient dans un état catastrophique, ça avançait pas ou ça avançait mal. Donc on sait pas. Donc peut-être qu'en faisant des reviews régulières comme ils le font dans les studios, ils se sont dit oh là, ça mène à rien quoi. C'est un gouffre financier sans fond.
Surtout avec la situation sanitaire.
Oui. Mais après aussi, ça découle peut-être d'un mauvais choix stratégique de base de Google. Parce que ce qu'on sait, c'est qu'ils ont fait des ponts d'or à nombre de personnalités de l'industrie, mais créer une Dream Team, s'il n'y a pas de structure ou d'idées, etc., bah ça ne sert à rien, en fait.
Et de cohésion, surtout. L'argent ne fait pas tout. Tu peux attirer les meilleurs. Si les gens n'arrivent pas à véritablement travailler ensemble et à créer une dynamique de groupe, tu peux injecter tout le fric que tu veux. Ça ne mènera pas forcément
à quelque chose. On l'a déjà vu dans le monde du sport, hein, des grands clubs qui, à coups de millions, attirent plein de superstars à titre individuel, mais qui, une fois mis ensemble, n'ont pas eu de résultats parce que ça prenait pas.
Ça fait pas une équipe.
Donc, c'est autre chose. Il y a plein de possibilités, en fait. Il y a plein de raisons potentielles à la situation. Et nous, avec la distance, on n'a pas forcément d'idées précises de ça, mais après d'après ce que Kotaku disait par exemple ou de ce que j'ai pu voir chez Jason Schreier, enfin d'autres personnes comme ça, apparemment l'organisation au sein de ces studios c'était pas forcément ça non plus, donc s'ils sont mal encadrés ces gens-là, aussi talentueux soient-ils, ça mène pas forcément à grand chose.
Est-ce qu'il y a une malédiction Phil Harrison et Judd Raymond d'après vous, si on veut résumer la situation et poser une question vraiment idiote?
Tu veux qu'on fasse les statistiques.
Je pense que c'était pas la meilleure association. Pour moi, Phil Harrison, c'est l'anti-Midas. Tout ce qui touche ne se transforme pas en or. On va dire que chez PlayStation, il était au bon endroit au bon moment. entouré de beaucoup de gens très talentueux et compétents, et il a peut-être recueilli la gloire de choses qui lui revenaient peut-être qu'en partie et pas autant que ce qu'on imagine. Après, lui, c'est certainement très bien se vendre parce qu'il se retrouve à des postes à haute responsabilité systématiquement avec des résultats qui ne sont pas forcément formidables. Et pour ce qui est de Jade Raymond, alors peut-être qu'elle s'est vendue comme étant capable de créer de gros projets annulés. ma spécialité, c'est des projets qui sortent pas, des projets ambitieux mais qui ne sortent pas.
Je sais. C'est affreux. Hein. T'imagines un petit peu quand même. Enfin, je pense pas qu'elle dans sa vie elle se dise je vais juste aller récupérer le fric et puis me barrer après une fois que le projet a été annulé. J'imagine pas du tout ça.
Non, mais on voit aussi à quel point on l'utilise à des fins de communication, que ce soit il y a une douzaine d'années, comme t'en parlais avec Assassin's Creed, il y a des vidéos promotionnelles d'ouverture de studio où on sent que c'est la com ultra bright à 2000%, mais que derrière, développer un jeu, ça, on ne peut pas s'arrêter à cette étape-là du discours.
D'autant qu'elle en a lâché des jeux. Hein. On disait Assassin's Creed, il y a eu un Splinter Cell, voire deux. Bref, elle a chapeauté des trucs quand même. Et je pense que franchement, pour le moral, ça doit être éprouvant quoi, de se dire ça fait 10 ans que j'ai, plus de 10 ans que j'ai pas sorti de jeu.
Bah, et pour les gens qui bossent avec elle aussi, parce que mine de rien, demain, on en parlait avant, il y a une équipe à qui on présente Jade Raymond qui devient leur nouvelle directrice. Les gars vont faire la gueule parce que ça veut dire qu'a priori, ton projet verra pas forcément le jour. Il y a de grandes chances qu'il n'arrive pas au bout. Donc c'est même flippant. Quoi.
Moi, je me rappellerai toujours de cette photo de l'époque d'Assassin's Creed, le premier ou le deuxième, je ne sais plus, où c'était une photo du studio, certainement Ubi Montréal, où tu avais Jade Raymond devant et tous les autres derrière, mais genre plusieurs mètres derrière, tu vois. Et je lui dis, mais comment tu te sens quand tu es au sein du studio comme ça et que cette personne est complètement mise en avant et la gloire lui retombe sur elle, alors que, comme on le sait, c'est un travail de... Bon, après, des personnalités comme ça dans le jeu vidéo, il y en a plus d'une, mais c'est vrai qu'elle... je crois que c'est toi, Plumo, qui parlait d'un outil marketing, Jade Raymond outil marketing, et c'est vrai que c'est un peu ça. Et je suis sûr que sur elle, ça pèse aussi, à titre personnel. Hein. C'est pas évident. Et plus le temps passe et plus les projets annulés s'accumulent, plus la situation va devenir compliquée.
Plus ton CV fait la tranche, surtout. Ouais. Oui, moi, je pense aussi à ces recrutements dont on parle, et notamment celui de Phil Harrison aussi, parce que mine de rien, tu recrutes quelqu'un pour les idées ou les perspectives qui peut te permettre d'avoir, ou éventuellement son carnet d'adresses, ce qui était peut-être le cas d'Harrison, mais quand tu regardes les déclarations d'Harrison depuis qu'il est chez Google Stadia, notamment par exemple sur les jeux qui vont... La technologie qui va construire le jeu vidéo de demain, à savoir le streaming qui va rendre obsolète les consoles, ce qui pour l'instant n'est pas encore arrivé, la façon dont il a vilipendé le jeu solo en expliquant que ça n'intéressait absolument plus personne et que l'avenir était au multi, et où tu vois en 2020 et même là en 2021 les jeux qui se vendent, les jeux qui font l'actualité du jeu vidéo, on est loin d'une domination totale du jeu multi, tu te rends compte que finalement ils ont recruté des gens qui n'étaient peut-être pas forcément en phase avec leur époque, les tendances du marché, et donc le projet... Et du coup, quand tu recrutes Phil Harrison, est-ce que tu t'attends véritablement à être raccord avec tout ça? C'est pas gagné, quoi.
C'est un peu compliqué. Ouais, c'est quand même un mec qui était dans l'équipe de lancement de la PlayStation, si on se souvient. Mais c'est vrai que quand on regarde après la suite, c'est assez compliqué, en fait.
Bon, il y a la parenthèse Gaikai, quand même.
Voilà, j'allais dire, avant Gaikai, c'était Atari. Bon. Voilà. Ensuite, après Gaikai, Microsoft, mais c'est l'époque de
TV.
Voilà, de la très mauvaise communication qui a précédé le lancement de la Xbox One. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Depuis 2018, c'est Google et c'est pas génial, quoi. Malheureusement. Malheureusement, je dirais qu'il porte la poisse quand même.
Ah bah là, moi, je pense que le prochain move de carrière de Phil Harrison, ça serait d'aller chez Square Enix pour reprendre en main Marvel's Avengers. Je pense que c'est la meilleure association possible pour un projet porteur et Quelqu'un qui a de bonnes idées.
Rien ne dit qu'il va partir, parce qu'on a oublié de le préciser, mais Plumeau, tu le rappelais dans ta news. À côté de ça, la plateforme Stadia, elle va continuer d'exister, elle va continuer d'héberger des titres tiers. Donc, il y a encore une communication, il faut des interlocuteurs au sein de chez Google pour aller démarcher et espérer collaborer avec les différents éditeurs de la place. Donc, il n'est pas encore dit qu'Harrison renonce à son poste de vice-président chez Google, parce que, bon, on imagine que c'est quand même assez, assez confortable. Et puis surtout, pour l'instant, cette annonce de l'arrêt de développement ne signifie pas l'arrêt de Stadia en tant que service, en tant que plateforme de jeux vidéo.
Alors, pour l'instant, oui. Après, moi, j'aurais tendance à être assez pessimiste sur le...
Je ne dis pas le contraire.
La viabilité de Stadia sur le long terme. Parce que là, c'est vrai que maintenant, donc, ils vont se concentrer sur des jeux qui sortent partout. Après, ils auront peut-être des petits accords d'exclusivité par-ci, par-là, mais ce ne sont pas des trucs majeurs. Jusqu'à présent, les chiffres de fréquentation de Stadia, quand on en a, ils ne sont pas faramineux. C'est vrai qu'il y a des jeux qui continuent d'être annoncés sur Stadia, mais moi, je me souviens, par exemple, de... Quand Sega a annoncé l'arrêt de la production de la Dreamcast et son passage en tant qu'éditeur tiers, Peter Moore, qui était le président de Sega of America, qui a fait l'annonce à l'époque, au moment de cette annonce, lui, il reste président de Sega of America. Il est parti relativement rapidement après ça, tu vois. Donc oui, tu peux avoir un poste intéressant, mais aussi professionnellement, tu t'attends à ce qu'il y ait des responsabilités, des choses qui... un niveau de responsabilité qui va avec une envergure de projet qui va avec aussi. Donc peut-être que Phil Harrison ne sera plus intéressé forcément parce que Stadia propose à partir de maintenant. Donc, il faut voir. Après,
ce qui sera encore plus compliqué du coup pour la pérennité du système, parce que tu changes de tête dirigeante à un moment où ça va particulièrement mal.
Ouais. On a vu aussi que Google, malgré leur stature, leur envergure et leurs moyens, ils n'hésitent pas à débrancher quand ça va pas.
Google Plus.
On se souvient de Google Plus, des Google Glass,
Smart Glasses,
des projets qui n'ont pas pris, qui n'ont pas fonctionné, donc ils se sont dit plutôt que de continuer à s'entêter sur ce chemin-là, et ben ils ont fini par laisser tomber. Et l'idée d'un service comme Google Stadia, c'est donc de démocratiser le jeu vidéo via le cloud et d'être présent partout. Mais le problème, c'est que pour être présent partout et pour donner envie aux gens d'utiliser ton service, bah, il faut avoir un petit plus ou des petites choses qui attirent. C'est pour ça, par exemple, que Microsoft, avec le Game Pass et le xCloud, bah, ils rachètent des studios et ils font des choses comme ça, parce que le contenu, c'est ça qui peut inciter les gens à passer chez toi. Le jeu vidéo, à l'heure actuelle, il y a déjà tellement de moyens d'y jouer. Et des moyens bien implantés de le faire, que pour réussir à les attirer ailleurs, il faut quand même proposer quelque chose. Alors, l'idée d'un service comme Google Stadia, c'était évidemment de toucher le public qui joue pas forcément, qui est pas forcément équipé en PC ou en console, etc. Mais là, on a vu que jusqu'à présent, ça a pas pris. Et donc là, en arrêtant de développer des jeux et peut-être en diminuant l'envergure du service, etc., bah, ils ajoutent pas d'arguments de vente, tu vois, ils en retirent plus qu'autre chose. Donc,
Et c'est pas comme s'ils avaient déjà tous les jeux tiers qui existent sur tous les supports concurrents. Et ils ne récupèrent qu'une petite partie de la production tiers. C'est-à-dire que tu as vraiment assez peu de titres auxquels tu peux jouer sur Stadia. Même s'il y a évidemment, on a parlé de Cyberpunk 2077 tout à l'heure, il y a évidemment des arguments en faveur de certains d'entre eux. Mais au global, quand tu regardes le catalogue et même les promesses dans les mois à venir, c'est quand même assez léger. Du coup, tu cibles, je suis d'accord avec toi, un public plutôt ou désintéressé, ou enfin qui n'a pas envie vraiment d'investir le moindre euro dans une machine dédiée. Mais est-ce que ça te permet de construire un business model durable? C'est clair que ce n'est pas gagné.
Bah, après, il y a des habitudes. Il y a des habitudes qui ne changent pas non plus. Hein. C'est qu'on reste... Les modèles dont on parle, console, PC, jeux mobiles, c'est des modèles qui sont quand même très ancrés dans la tête des gens et qui sont considérés comme les vraies portes d'accès aux jeux vidéo. Là, Google Stadia, malheureusement, malgré l'envergure de Google et malgré, on va dire, la puissance que peut déployer Google pour essayer d'en parler, pour essayer de l'imposer, ça reste, je pense, le... quelque chose de qui peut encore peut-être faire peur ou qui peut ne pas être considéré comme un moyen, on va dire, pérenne de se lancer dans le jeu vidéo.
Et je me demande en fait s'ils n'ont pas fait leur communication et leur marketing à l'envers, parce que ils ont commencé depuis le lancement de Stadia par s'adresser peut-être au public qui avait le moins de chances de s'intéresser à Stadia, parce que on voit avec depuis le début, ils visent qui ? Ils visent les hardcore gamers. Les joueurs habituels qui, eux, ont déjà leur plateforme de choix, qui ont déjà leurs habitudes. Et comme les lancements de la PS5 et de la Xbox Series X ont montré, les consoles classiques ont encore leur mot à dire. Tu vois, console qu'on annonce mort depuis quasiment deux générations, on montre que c'est un modèle qui marche encore très bien et qui intéresse encore la population.
La preuve, il y a même des émeutes au Japon à cause voilà. d'une console ouais, mais alors, de génération.
C'est parce que ce sont des spéculateurs, en fait. Donc, c'est autre chose. Mais si tu veux lancer un truc comme Stadia, c'est pas les core gamers qu'il fallait viser d'abord, c'est le grand public. Il fallait faire une campagne marketing massive pour montrer à n'importe quel Pékin lambda qu'il peut jouer facilement à n'importe quel jeu vidéo, tu vois. Et alors que j'ai l'impression que la communication de Stadia, elle est invisible, quoi. Enfin, ils se sont pas du tout adressés aux... Je vois... Alors, tu vois, par exemple, parfois, quand tu prends le métro, quand le monde fonctionne normalement, dans le métro, tu as des campagnes massives pour des consoles ou pour des jeux, des affiches partout, etc. Et à ma connaissance, j'ai jamais vu d'opération de communication équivalente pour Stadia ou une pub à la télé le vendredi soir à 20h, à 20h50, avant l'émission, avant Koh-Lanta, par exemple. Ah, vous voulez jouer à tel jeu, c'est aussi simple que cette manette-là était un truc un peu explicite qui montre la simplicité de l'accès aux jeux vidéo AAA, etc.
Comme quand Nintendo a présenté la Switch, je veux dire simplicité du concept que tu illustres en images, qui permet d'être compris par tout le monde. Mais alors, pour moi, il y a non seulement ça, mais rappelez-vous, au lancement du système, je sais, quand on l'a reçu, il y a eu tout un quiproquo aussi sur les formules d'abonnement, sur ce qui était véritablement proposé, et ils ont mis du temps à réagir et à clarifier justement l'offre. Donc, même sur leur propre service, même au moment de le lancer, ça avait été compliqué. Et même avant ça, on se souvient qu'en tout cas pour nous, pauvres Européens, je crois que c'était Harrison justement qui était interrogé sur les éventuels tests qu'ils allaient faire au niveau du réseau, et il disait non, on a fait des tests aux États-Unis, maintenant ça marche, on n'a pas besoin de faire de tests en Europe, on déploie le service et puis advienne que pourra. Donc on voit bien qu'en termes de communication, même sur les parties qui sont censées être maîtrisées, c'est compliqué depuis le début.
Et, et techniquement, au début, ça ne fonctionnait pas forcément super bien non plus. Mmh. Et on a tellement de cas qui montrent que une mauvaise première impression, c'est extrêmement difficile d'arranger les choses et d'inverser la tendance. Donc là, il y avait quand même un vent mauvais du côté de chez Stadia. C'est pour ça que je suis assez pessimiste sur la survie et la pérennité potentielle du service sur le long terme. On l'avait vu quand il y a eu la privatisation des services de renseignement téléphonique. Il y a eu 15 services qui se sont lancés en même temps, 118, 118, 712... machin, il y a eu tous ces trucs-là pendant genre 6 mois. Tu avais la moitié des pubs à la télé, c'était pour des services comme ça, et ça, ils ont quasiment tous disparu assez rapidement parce qu'il n'y avait pas la place pour tout le monde.
Alors ça, c'est pas tout à fait pareil, parce que là c'était un service qui était exclusif avant, qu'on ouvrait à la concurrence. Là Google essaye de s'insérer dans un marché qui a déjà beaucoup d'acteurs et des modèles, comme le disait Plume, assez bien installés.
Ouais, mais le jeu via le cloud, c'est quand même assez nouveau. C'est une pratique récente qui n'est pas encore, contrairement aux consoles, qui n'est pas encore ancrée dans les habitudes. Et donc, si tu ne te lances pas maintenant, tu ne te lanceras jamais, en fait. Ils ont essayé. Et je pense que d'ici 5 ans, quand on reviendra sur les plateformes de jeux via le cloud ou en streaming qui tiennent et qui durent, je pense que Stadia ne sera plus là.
Et est-ce que, on va finir cette partie là-dessus, est-ce que Luna d'Amazon, vous pensez que ce sera encore là?
On sait que chez Amazon, il y a d'autres complications. Une fois de plus, on parlait de Jason Schreier de chez Bloomberg tout à l'heure. Il y a un papier justement qui est sorti il y a quelques jours expliquant à quel point c'était a priori très compliqué de développer des hits chez Amazon et qu'il y avait là encore un espèce de problème avec la culture d'entreprise et la façon de fonctionner de ce géant du net. Donc, une fois de plus, ça semble pas forcément très bien parti.
Après, quand on se rappelle de Crucible, le destin de ce pauvre Crucible, qui malheureusement est mort. Voilà, il est sorti, il est repassé en bêta et il est mort. C'est quand même assez exceptionnel.
Mais il y a un truc que je retiens, je te laisse la parole Romain, mais c'est justement ce que tu disais, c'est qu'on n'en finit pas justement d'annoncer la mort d'un modèle à l'ancienne qui existe depuis, allez, globalement les années 80, même s'il a tout petit peu évolué. En attendant, au vu de la demande effrénée en ce qui concerne les consoles de nouvelle génération, je ne serais pas étonné qu'on reparte pour au moins une génération supplémentaire parce qu'on voit que techniquement, c'est un modèle qui fonctionne là où les autres sont encore en balbutiement et ne trouvent pas forcément un bon business model.
Non seulement le modèle fonctionne, mais en plus, les jeux utilisés sur ces mêmes consoles sont à l'opposé de ce qu'on nous vendait il y a 4-5 ans de ça, du multi dans tous les sens, c'est connecté forever. Là, on voit que ce qui capte l'attention des joueurs pendant des dizaines d'heures, c'est du solo. Il y a du multi qui fonctionne aussi, mais le solo est loin d'être mort. Donc, les certitudes que certains semblaient avoir il y a une génération, en fait, elles sont pas si garanties que ça. Et juste pour Amazon, la différence entre Amazon et Google, je trouve, c'est qu'ils sont vachement moins grandiloquents sur leur manière de présenter leur service. Amazon Luna, c'est annoncé via des articles. Ça a été bon après. Ils annoncent ça pendant une année de pandémie où tu peux pas faire de conférences, etc., etc. Mais malgré tout, il n'y a pas eu de grandes vidéos showcase machin. Ça a été annoncé beaucoup plus discrètement. Donc j'ai l'impression qu'ils y vont plus. De manière plus prudente que Google a pu faire avec Stadia. Et l'autre différence entre les deux, c'est que Amazon peut se reposer sur Twitch, sur la symbiose entre Twitch et son service de jeu. Et les passerelles sont peut-être un peu plus évidentes que pour Stadia et les autres plateformes Google. Alors que quand Stadia a été annoncé, ils nous présentaient des boutons qu'il y aurait sur YouTube. Tu sais, hein, tu regardes une vidéo sur YouTube, tu cliques sur un truc et hop, tu es en train de jouer au jeu que tu étais en train de regarder deux secondes avant. Ça c'est pas vraiment fait à ma connaissance. Et ils font peut-être ils font les choses dans un ordre différent de Stadia. Ah, est-ce que ça va fonctionner? Ça, je sais pas. Mais en tout cas, tu sens qu'ils y vont de manière plus tranquille.
Bon, très bien. Bah, écoutez, on a fait le tour de cette question de Google Stadia.
Ah oui, juste, ou pas. Excuse-moi, Plumeau, je te fais le coup à chaque fois. Ouais. C'est juste que j'ai un peu de peine.
Au moins, tu le reconnais, c'est bien.
J'ai un peu de peine parce que j'avais vu, et ça existe, j'étais sidéré de voir ça, des comptes Twitter de fanboy Stadia.
Ils sont
pas nombreux. Ils sont pas nombreux, mais ils ont les mêmes caractéristiques que tous les autres. Et eux, ils doivent être quand même à la peine. Je me demande comment ça fonctionne ce truc-là. Est-ce qu'ils se disent, j'ai pas trouvé ma niche de fanboyisme. Ah, Google Stadia, il y aura peut-être pas trop de concurrence. Bon, allez, je fonce là-dessus. Je vais être fanboy de Stadia.
Il y a des gens qui aiment les causes perdues. Hein.
Ah, il y a aussi. Oui,
il en faut. Aussi,
Il y a des gens qui mettent des pouces vers le bas sur des vidéos d'animaux mignons. Donc, vous savez, tout est possible dans ce monde. Bref.
Donc, c'est Stadia. Fanboy Stadia.
Voilà. Stadia, on y reviendra peut-être plus tard. On espère, en tout cas, que les 150 personnes donc, qui vont être soit reclassées, soit sur le carreau, trouveront rapidement des endroits où pouvoir crécher. Ça tombe bien. Il y a beaucoup de développeurs qui, depuis l'annonce, se manifestent, notamment sur Twitter. Et je pense notamment à Fleur Marty, au passage, qu'on connaît un petit peu, qui propose évidemment à ses développeurs de trouver une nouvelle maison dans leur studio. Et voilà. Et Kurt Margeno aussi, qui s'est permis de dire on fait des jeux, pas de la tech, ce genre de choses. Donc voilà, les annonces sont passées, donc on verra. Et on va finir ce podcast avec un jeu qui est sorti la semaine dernière, le 28. Comme je vous le disais en début d'émission, il est déjà rentable. Incroyable. Dès le lendemain, on apprenait dans un, dans un journal polonais que eh bien, The Medium avait réussi à rembourser son coût de développement et son marketing en une seule journée, ce qui est quand même sacrément fort. Après, c'était par un triple A, évidemment. Et on imagine qu'il y a des moyens qui ont été alloués par Microsoft pour permettre au jeu, donc forcément par le Game Pass, pour permettre au jeu d'être comme il est aujourd'hui. Johnny One donc, a fait le test. Vous pourrez aller le lire quand vous voulez. De mon côté, je l'ai fait aussi. Hein, je me suis pris le week-end dernier pour, on va dire, accompagner Johnny un petit peu dans ce test et voir ce que ça donne, mais sur PC. Alors, pour ma partie à moi, ce n'est pas du tout Xbox Series X S, même si c'est un jeu exclusif à ces consoles. J'y ai joué sur PC, à fond, encore une fois, dans les meilleures conditions possibles. Et donc, première surprise, en fait, par rapport à tout ce qu'on pouvait attendre du jeu, c'est que la vue qui a été choisie pour le jeu, donc qui est une vue externe avec des caméras fixes, comme on pouvait en avoir dans Resident Evil, dans Onimusha, dans pas mal de survival horror de la fin des années 90, début des années 2000, un modèle qui a été vite retiré, hein, c'était le modèle d'ailleurs de Alone in the Dark à la base, qui a été retiré vite. Toi, tu trouves trop vite, il faut quand même lui reconnaître certains défauts à ce modèle, même si ça joue bien sur certains trucs. Parfois, ça peut être un peu pénible, en tout cas dans certains titres. Et donc, moi, je pensais, personnellement, et je pense que je n'étais pas le seul, que cette vue-là allait justifier un survival horror un peu classique, justement, à l'ancienne, d'autant qu'il y a Akira Yamaoka, donc, qui est le compositeur, qui est passé plus tard producteur de Silent Hill, qui travaille sur le jeu, qui d'ailleurs signe là des super compositions. Lui, il s'est plutôt occupé d'une partie en particulier, j'y reviendrai après. Et donc, j'imaginais ça. Et en fait, pas du tout. C'est du Bloober Team, comme Bloober Team fait depuis longtemps, que ce soit avec Layers of Fear ou Observer, ou encore plus récemment avec Blair Witch. C'est un jeu narratif, tout simplement, un walking simulator qui a une autre forme, tout simplement, et qui le fait plutôt bien, d'ailleurs. Alors, je vous passerai les détails du scénario qui font que moi, de mon côté, j'ai un peu de mal avec certains twists qui sont prévisibles depuis 2000 et quelques, hein, depuis Silent Hill 2. Vous pouvez prévoir certains trucs dans les jeux d'aujourd'hui qui se présentent comme des thrillers psychologiques. Et donc, ça raconte l'histoire d'une jeune femme qui est médium à Cracovie, parce que oui, Bloober aime bien aller un petit peu en Pologne, dans son pays natal, comme c'était le cas avec Observer, d'ailleurs. Observer, faites-le, hein. Vraiment, j'insiste. Faites-vous System Redux, absolument, c'est un jeu extraordinaire, je ne cesserai jamais de le dire. Et donc, cette jeune femme va enterrer son père adoptif, en quelque sorte, et elle va recevoir un coup de fil dans la foulée de quelqu'un qui lui demande de venir l'aider dans un hôtel délabré un peu plus loin en Pologne. Elle va partir dans une enquête psychologique très spéciale, parce qu'elle a le pouvoir, Marianne, donc c'est son nom, eh bien, d'évoluer entre deux mondes, entre notre monde réel et le monde des morts, dans lequel elle peut, parfois, ça lui arrive, eh bien, trouver les morts dont les âmes errent un petit peu comme, j'allais dire comme des âmes en peine, mais bref, des âmes quoi, qui errent, qui ne savent pas trop comment partir, parce qu'elles ne savent pas qu'elles doivent partir, et elle les aide de temps en temps à faire ça. Et là, elle va mener une enquête pour essayer de savoir ce qui s'est passé dans un endroit très précis, un orphelinat qui est un peu plus loin. Et bah, y a plein de choses bizarres qui vont commencer à se passer, une espèce d'ombre gigantesque qui va la suivre, qui est doublée par Troy Baker. Il y a un personnage encore plus énigmatique, on ne saura pas si c'est un ami ou un ennemi, une petite fille qui se balade. Et particularité des morts dans le jeu, c'est qu'ils ont tous un espèce de masque en porcelaine sans expression qui rend le truc encore plus angoissant. Et la direction artistique d'ailleurs qui est vraiment sublime, je ne parle pas uniquement des destinations réelles qui sont très très bien rendues, vraiment c'est extrêmement détaillé. Vous avez vraiment l'impression d'être dans un hôtel dégueulasse avec des murs complètement délabrés, tout qui tombe en ruine. Mais il y a aussi le côté réalité, l'autre réalité, celle des morts, qui est assez fabuleux. Vraiment, le monde qu'ils ont créé est magnifique. C'est un petit mélange entre une espèce de sorte de Giger, vous savez, le créateur d'Alien, avec des teintes ocre qui font un peu fin du monde, un peu apocalypse. et ça marche extrêmement bien. Vous avez la possibilité dans le jeu d'évoluer dans les deux mondes en même temps. Et ça, c'est la particularité du jeu pour certaines de ces énigmes. Alors, ce n'est pas son point fort non plus, mais il en propose quand même quelques-unes. D'évoluer dans les deux mondes différents, d'alterner pour agir sur un objet quelque part et débloquer dans un autre. Sortir de votre corps, encore une fois, pour essayer d'autres choses. Il y a plein de petites mécaniques comme ça qui sont, on va dire, un peu proche de ce que pourrait proposer un jeu traditionnel, mais pas trop. C'est-à-dire qu'on a quand même quelques petites énigmes, quelques objets à récupérer, mais ça reste malgré tout un walking simulator. Donc, il n'y aura pas beaucoup de choses sur lesquelles se creuser la tête. Johnny en parle dans le test, il y a peut-être une énigme qui demande un peu plus d'observation que d'autres. Le reste, c'est aller chercher un objet, le placer au bon endroit. Ce n'est pas bien compliqué. L'idée vraiment avec le jeu, c'est de raconter une histoire qui se tient, d'avoir une ambiance qui est vraiment oppressante, qui est vraiment étouffante. De ce côté-là, ça marche, mais extrêmement bien. Vraiment, l'histoire est plutôt bien racontée. Il y a une assez bonne mise en scène. Bon, alors pour les acteurs, je ne pourrais pas vous dire s'ils jouaient bien parce que j'y joue en français, en fait. Donc là, pour le coup, c'est plus Johnny qui pourrait vous en parler. Toujours est-il que, vraiment, lui, il parle aussi des vibrations, d'ailleurs, qui donnent quelques sensations sympathiques. C'est vrai que, de ce côté-là, ça marche bien aussi. C'est une histoire qui se vit sur, 6-8 heures environ, que vous pouvez faire en ligne droite. Si vous prenez le temps de récupérer tous les objets, de bien fouiller, grâce au pouvoir de recherche dans l'autre monde, écouter des conversations qui ont eu lieu, des histoires qui parfois ne vous touchent pas directement, hein, et bien vous allez avoir tout un univers, encore une fois, qui va se construire autour de vous. Et franchement, c'est vraiment, vraiment très bien fait. C'est pas mon préféré de Bluebird, mais ça reste un jeu qui est très très intéressant de la part du studio polonais, qui, encore une fois, montrent qu'ils sont plutôt doués dans leur créneau, c'est-à-dire le créneau des jeux un peu glauques. Et là, ils ont encore réussi leur coup. Donc après Observer, après Layers of Fear, après Blair Witch, vous pouvez compter sur The Medium pour faire le boulot. Et si vous avez en plus une Xbox Series X ou S, ça vaut le coup. C'est la première vraie bonne exclusivité pour les machines de Microsoft.
Alors, juste une petite question, parce que moi qui n'y ai pas encore joué, on est tous piqués de curiosité à l'idée de découvrir comment la mécanique justement de contrôler le même personnage sur deux plans différents fonctionne. À t'écouter, j'ai un peu eu l'impression que c'était en fait juste une manière différente de représenter des mécaniques qu'on connaissait déjà, qu'on retrouve dans plein de jeux depuis des décennies, à savoir tu évolues entre deux mondes, une action dans l'un entraîne une action dans l'autre.
Voilà, mais tu les as simultanément, c'est là, ça tu la particularité. Ouais,
Donc ça ne creuse pas forcément beaucoup plus la formule. C'est une manière différente de la présenter, en fait.
Exactement. Là, le fait est que la technique permet d'avoir les deux mondes en même temps. Voilà. C'est un truc que tu ne pouvais pas forcément avoir dans la plupart des jeux jusqu'à aujourd'hui. Et ça marche bien. En tout cas, pour l'atmosphère, pour l'ambiance, ça marche vraiment bien. Voilà. C'est tout ce que je pouvais vous dire sur The Medium. Le test, c'est Johnny qui l'a signé. Il a mis un joli 8 indispensable, c'est-à-dire que le jeu est donc très bon. Voilà, n'hésitez pas à y jeter un œil. Et comme on le rappelle, le jeu est Day One sur le Game Pass. Donc, si vous êtes abonné au service Game Pass, vous pouvez y jouer quand vous voulez, où vous voulez. Comme je vous dis, ça ne prendra pas très très, très très longtemps pour le terminer et vous passerez un bon moment. Voilà, j'espère avoir répondu à votre curiosité.
Moi, tu m'as surtout rappelé que je devais faire Observer.
C'est vrai, il faut absolument le faire.
Et je m'attends depuis bien trop longtemps.
Absolument. Y a aucun doute là-dessus. Bon, je crois qu'on en a fini avec le podcast, hein, d'ailleurs.
C'est ce que nous dit le sommaire.
Voilà, c'est ce que nous disent les touches sur lesquelles Traz est en train d'appuyer avec beaucoup de force. Je pense qu'il est en train de nous engueuler sur... Non, je pensais qu'il était en train de nous engueuler sur notre canal de discussion habituel, mais pas du tout. Donc voilà, merci Thomas. Merci Romain, merci
de rien.
Le pouffeur donc, qui était encore là, mais pas pour vous.
Ça n'a pas raté, hein. On en a eu un juste après.
Exactement, et comme d'habitude, on vous souhaite de passer une bonne semaine jusqu'à la semaine prochaine où le prochain podcast sera diffusé. Vous allez prendre soin de vous, vous allez mettre un masque, vous allez respecter les distances de sécurité, les gestes barrières. Voilà, essayez de... Alors, quand vous prenez la route, comme normalement, maintenant, ça va serrer un peu la vis maintenant, quand vous prenez la route, essayez de partir plutôt à 14h. Voilà, si vous voulez être sûr de rentrer chez vous, parce que sinon, vous allez vous faire contrôler à 17h30. Et voilà, et ça va vous faire que vous allez vous prendre une prune. Donc, mauvaise idée. Voilà,
en fait, tu dis ça pour avoir un boulevard quand tu rentres chez toi en voiture.
Ouais, ouais, franchement, ce serait pas mal que je puisse, moi, me balader tranquillement avant le reconfinement. Ça me ferait plaisir.
Et si je peux me permettre, il y a un petit abus de l'impératif chez toi qui commence à m'inquiéter un petit peu. Je sens une dérive un peu bizarre dans ton esprit.
Très bien, bah, taisez-vous, Thomas. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Taisez-vous. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. On vous embrasse. Ciao.
Bisous. Ciao.